Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir tout un monde, explore la planète du tango, cette musique qui est une danse, une esthétique, une passion, presque une religion, et dont l'âge d'or se situe entre 1935 et 1955, avec des rebonds spectaculaires, notamment aujourd'hui, et avec des adeptes inconditionnels un peu partout dans le monde, ce qui est le cas de nos deux invités de ce soir, Jean-Louis Mingallon et Emmanuel Honorin, qui sont co-auteurs avec Gwenaëlle Denigo du Dictionnaire passionné du tango, paru aux éditions du Seuil.
Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval.
Le tango, c'est d'abord une danse née sur les rives du fleuve d'argent mythique, le Rio de la Plata. À la fin du 19e siècle, le tango qui a conquis peu à peu un très large public partout dans le monde, qui a été adoré par nos grands-parents, cheveux gominés pour monsieur, blond platine pour madame et talons aiguilles. Et puis, il a connu une éclipse avant de retrouver un nouveau public de passionnés. Car, pour paraphraser Apollinaire, le tango a l'assemblance du beau phénix. S'il meurt un soir, le matin voit sa renaissance. 30 minutes donc au rythme quaternaire de cette musique à danser, cœur à cœur, corps à corps, en compagnie de nos deux passionnés, la tanguera Emmanuel Honorin. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Alors, vous êtes ethnographe, vous êtes spécialiste globalement des musiques populaires, mais tout particulièrement du tango, et vous produisez les soirées tango de la Bellevilloise. Et puis, vous êtes l'auteur d'une biographie de l'auteur et compositeur iconique du tango, Astor Piazzolla. Ça s'appelle « Le tango de la démesure », une grosse partie de votre vie, donc, en tango.
Oui, pas uniquement, parce que j'entre dans le tango par la fenêtre des musiques du monde. J'étais très longtemps journaliste, notamment au magazine Géo, où je comptais mes récits de voyage un peu partout, dans les territoires lointains, mais pas uniquement. Et j'ai beaucoup travaillé sur les musiques de transe, les musiques liées à la mémoire, aux esprits, à la manière de ritualiser cette connexion entre la musique et la thérapie. Voilà, ça a été une grande partie de mon travail. Et puis le tango, toujours en parallèle.
Qui a une source africaine aussi.
Qui a une source africaine, ça on peut en parler justement à travers l'histoire du tango nègre, ce morceau de Cáceres.
Alors que vous avez choisi tous les deux, mais je donne la parole à Jean-Louis Mingallon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes journaliste de presse et de télévision. Vous êtes spécialiste de l'ensemble des musiques du monde. Vous êtes cinéaste, donc vous avez tourné beaucoup de films.
On va dire vidéaste.
Et vous êtes aussi tanguero.
Un petit peu, oui. Bah, j'ai commencé c'est un peu le hasard, j'ai commencé par le théâtre, ensuite c'était le cinéma. J'avais parallèlement toujours la passion des musiques du monde que j'écoute depuis très très longtemps. Mais je n'avais pas spécialement choisi le tango au départ. C'était un peu l'ensemble des musiques du monde et j'écoutais le tango comme j'écoutais de la musique arabe ou indienne. Et puis j'ai commencé à voyager avec une caméra, en même temps avec le stylo. Et là, j'étais un peu partout dans le monde où il y avait les traditions de musique et de danse. Et puis en 2001, je me suis retrouvé pour la première fois à Buenos Aires et là, j'ai tombé à la marmite et je m'en suis pas remis.
Oui, surtout que dans Buenos Aires, il y a du tango partout. Moi, j'y étais il y a quelques mois et c'est étonnant parce qu'on croit que c'est une vieille histoire et que c'est un peu touristique. Mais non, ça se vit au jour le jour, de manière très sincère.
Oui,
c'est pas produit le tango, ça tient à la fibre des gens.
C'est-à-dire que ça a été réactivé par les voyages, par l'extérieur, beaucoup. Et puis là, maintenant, ça devient... ça fait quand même, dix ans, quinze ans maintenant.
Oui, depuis les années 90, c'est trop
parti. C'est revenu de manière extrêmement moderne. C'est, bon, évidemment, archi intergénérationnel, mais avec des manières de faire et des manières de vivre ce tango très, très différentes et qui cohabitent, c'est ça qui est intéressant.
Alors, un mot sur les sources, parce que j'étais étonnée... en lisant votre dictionnaire passionné du tango, des origines quand même déjà très anciennes du tango. Vous parlez du 19e siècle, vous parlez donc de ses racines africaines et interlopes. Alors ça, on s'en doutait un petit peu, c'était un peu la musique des mauvais garçons et des mauvaises filles, mais l'Afrique là-dedans, qu'est-ce qu'elle a à voir ?
L'histoire de l'Afrique, il y a une petite focalisation en ce moment sur cette histoire africaine qui est très intéressante parce que ça a été redécouvert par quelques spécialistes, ça fait peu de temps et c'est intéressant.
C'est politiquement correct de dire ça ?
Non, on en a suffisamment parlé nous et on est suffisamment acteurs de cette affaire pour l'assumer complètement, je pense. Mais c'est vrai que, disons, avant de parler d'Afrique, on va d'abord parler d'une musique portuaire qui s'est synthétisée, qui s'est syncrétisée, on va dire. À la fin du 19e siècle avec une arrivée massive de migrants dans un pays qui était en développement mais spectaculaire, qui a, en tout cas Buenos Aires a multiplié par 6 ou 7 sa population en trentaine d'années entre 1880 et 1910. Enfin, on est dans une expansion démographique délirante. Et à partir de là, on se retrouve avec des gens qui sont arrivés de partout, beaucoup d'Européens, beaucoup de gens de l'Est, beaucoup d'hommes seuls, venant évidemment apporter leur force de travail, quittant une femme souvent laissée comme une sorte de fantasme,
dans l'ancien monde,
idéalisée, c'est soit la mère, soit la fiancée qu'on a laissée sur place. Donc tout ça a joué sur ce monde-là. Je croise volontairement l'histoire et le symbole parce que je trouve que c'est tout ça est lié. Alors on dit que le tango est une musique portuaire. Pour moi, c'est vraiment son sens, au sens de l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on est dans l'entre-deux de mondes et on est dans l'entre-deux en effet d'un monde européen, mais aussi d'un monde afro-caribéen, puisqu'on a dans ces trois constituantes. Alors là, d'un point de vue purement musical, ces trois constituantes, c'est quoi ? C'est la habanera, cette forme qui vient de la contredanse européenne, passée par la cour de Louis XIV, Haïti, qui a déjà d'ailleurs intégré sa forme africaine en Haïti à ce moment-là. Puis, Haïti, indépendance, hop, on passe à Cuba et on redescend par la voie des marins et toute cette population-là déjà hyper métissée et qui intègre déjà une donnée africaine arrive là dans le Rio de la Plata. Donc ça, c'est la partie habanera qui a évidemment son cousinage après dans ce petit rythme qu'on connaît plus tard de lié à Carmen et tout ça. Bon, ça
c'est et puis arrive là-dedans...
L'autre chose, j'ai terminé.
Oui.
L'autre chose, la milonga, donc qui intègre aussi, même si elle vient plus des terres, mais qui intègre aussi d'un point de vue étymologique et puis d'un point de vue symbolique aussi une forme africaine, puisqu'on disait que c'était le lieu de pratique des Africains, enfin des Noirs à l'époque. Donc là, on est en tout début du siècle, du 19e siècle, en Argentine. Et puis la troisième partie, alors elle, qui est directement africaine, c'est toute la partie liée au candomblé, c'est-à-dire toute la partie liée aux comparsas de carnaval des communautés plutôt uruguayennes. Et là, l'Afrique est très forte.
Alors arrive dans cette histoire le bandoneon. Et c'est un peu la même histoire qui se passe en Louisiane. C'est l'émigration allemande et l'arrivée de ce que Jean Privat appelait le soufflet des douleurs. Jean-Louis Magallon.
Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est que sur l'histoire de la présence africaine, la présence noire dans le tango, c'est une chose relativement récente. Avant, bon, quand on va en Argentine la première fois, on s'aperçoit que le pays est blanc. Et alors on pose des questions, on dit il n'y a pas de noir, c'est comme ça. Sauf qu'il y en a eu beaucoup dans le temps. Il y a eu une époque où la Vierge d'Auxerre était à peu près le tiers de la population noire. Simplement entre les épidémies, les chars à canon dans les guerres, il n'y a plus de noir. Et après ça, on a oublié complètement la présence des noirs dans l'essence du tango. C'est quand même un comble.
Ça, c'est un oubli politique aussi.
Oui, bien sûr. toujours, c'est voilà, pas un oubli concerté. Par hasard, bien sûr.
Alors, hein. L'apport germanique.
L'apport germanique, bah, c'est, on va dire...
Parce que quand même, sans Bandoneon, il n'y a pas de tango pour nous, aujourd'hui.
Alors, c'est la grande question, mais ça, on peut en discuter pendant des heures. Est-ce que quand il y a Bandoneon, c'est forcément tango, et quand il n'y en a pas, c'est pas du tout tango, on ne sait pas. Bon, c'est plus compliqué que ça, je pense. En tout cas, c'est vrai que c'est devenu le symbole, vraiment l'instrument fétiche par excellence du tango. Et il arrive, on ne sait pas très bien, tout ça c'est flou, parce qu'il n'y a jamais aucune trace réelle, pratique, concrète. On sait que ça, en gros, il s'installe au début du XXe siècle. Hein, c'est donc la période dont on parle là, au début, juste après les origines, quand on s'installe ce qu'on appelle la Guardia Vieira, hein, c'est-à-dire cette période incroyable qui va en gros de fin du XIXe jusqu'au 1920. Et là, le bandoneon s'installe, il chasse la flûte, parce qu'au départ, c'était plutôt les trios avec guitare, violon et flûte. Il chasse la flûte, après d'abord installé avec la flûte, et ensuite il la vire complètement. Et c'est devenu un instrument, effectivement, qui est peut-être le seul vrai apport fondamental de l'Allemagne dans cette affaire, parce qu'il n'y en a pas d'autre, hein, finalement. Même si aujourd'hui, on danse beaucoup le tango, et il y a beaucoup de milonga et de cours en Allemagne.
Alors, on arrive à l'âge d'or, où le tango et le péronisme s'épousent. Écoutez Tout un monde sur France Culture. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Honorin, Jean-Louis Magallon, co-auteur du dictionnaire passionné du tango. Alors c'est vous qui avez fait la bande-son de cette émission, tous les deux, et c'est Juan D'Arienzo que nous écoutons. Donc Âge d'or, 1935, Hôtel Victoria. Âge d'or parce que aussi, étroite coïncidence entre une société et sa musique.
Oui, on peut dire ça comme ça. 1935, c'est une date charnière aussi, il y en a d'autres après. En 35, c'est d'abord la mort de Carlo Gardel, dans un accident d'avion à Medellin.
D'origine française.
D'origine française, absolument, né à Toulouse, malgré beaucoup de discussions là-dessus, parce qu'effectivement, comme il ne voulait pas revenir en Europe et en France, notamment pendant la guerre, il avait demandé un autre passeport que le passeport français, d'autres papiers. Donc en 35, il y a la mort de Gardel, et puis il y a tout d'un coup un début d'un autre style de musique et de danse, et notamment Juan D'Arienzo réinvente, retrouve les rythmes de la première époque dans la Guardia Vieira. Il va donc ramener sur les pistes de danse tous les jeunes qui n'y étaient plus, qui dansaient autre chose, le jazz, ouais, autre chose. Et à partir de 1935, alors on vient de l'entendre, c'est un rythme très particulier qui tout d'un coup enchante vraiment les jeunes, qui retournent dans les pistes de danse, redansent le tango, et ça démarre en 35. Et puis, après, il y a évidemment l'âge d'or qui va se prolonger au-delà avec l'arrivée de Perón qui, lui, va défendre complètement le tango, hein, comme une culture et une musique nationale. Voilà.
Oui, alors justement, ce qui nous intéresse ici, parce que Tout un monde n'est pas une émission vraiment musicale, mais plutôt qui se penche sur les univers culturels et les sociétés. Alors, il y a ce lien étroit entre le tango et cette société par le biais, donc, d'une expression dont on va dire qu'elle est quoi ? Qu'elle est romantique, qu'elle cultive le pathétique. Il y a aussi la dimension, bien entendu, érotique. En quoi le tango est-il l'expression d'un lieu et d'un moment ? Avec cette emphase qui a pu faire rire à certaines époques et puis qu'on aime, mais qu'on aime souvent au second degré.
Je crois que le simple fait que cette musique, cette danse soit née comme ça, de cette mixité, de tous ces apports, déjà, ça c'est un peu la musique, la danse qui unifie tout ce petit monde-là, hein, qui vient de partout, qui vient de la campagne, les gauchos, les gens qui arrivent de la campagne, les paysans qui arrivent à la ville qui se développe, la ville et la campagne qui restent très longtemps, restent collées l'une à l'autre, pratiquement. Donc l'apport de tous ces cette population.
Donc c'est un rôle politique finalement.
C'est un rôle à la fois politique, sociétal. Aussi, il n'y a que des hommes au départ ou à peu près, et ensuite il y a les femmes commencent à arriver un peu, puis il y a surtout les développements des, ben, on finit par faire des enfants et donc ça se développe. Le fait aussi que c'est commencé par les couches populaires et que petit à petit ça a gagné l'ensemble des populations au-delà des couches populaires et évidemment des ce qu'on appelle les quartiers louches et les bordels. Mais ça a commencé comme ça dans les cafés un peu de près des ports, les fameuses classes, les fameuses académies qui ont commencé par des classes de tango mais très améliorées avec les femmes quand même qui étaient à la fois payées pour faire du tango et autre chose. Enfin, tout ça. Donc cet ensemble-là fait un, comme ça, ils ont besoin d'une identité à un moment donné. C'est un peu comme le bandoneon, ils avaient besoin d'un instrument qui soit vraiment le leur et pas ailleurs. Donc tout ça, ça s'est mélangé pour faire finalement une start et une culture nationale incroyable.
Alors la posture tango, c'est un homme très homme et une femme très femme. Alors, aujourd'hui, on a un peu tendance à regarder ça, c'est presque comme une posture de carnaval, c'est-à-dire on joue à être tango. Mais il y a quand même des rôles à l'époque qui sont complètement assumés. Emmanuel Honorin.
Oui, c'est-à-dire que sauf alors oui et non, c'est-à-dire que c'est bien dans l'entre-deux de ces deux rôles que se situe la tension du tango et son intérêt, je pense, pour nous tous et ce côté totalement dingue en fait, hein, parce que c'est une exploration perpétuelle justement de l'entre-deux des rôles qui a aussi évidemment évolué à toutes les périodes de son histoire. Évidemment que quand le tango était dans un moment historique où il y avait une domination, masculine, mais aussi une protection de la famille, enfin où la jeune fille ne sortait pas seule, elle sortait avec sa mère, avec ses frères, enfin il y avait c'était bordé tout ça, parce qu'évidemment que de manière sous-jacente, il y a toujours cette connexion entre l'expression, comme on dit, l'expression verticale d'un désir horizontal. Je veux dire, on est vraiment sur cette connexion là avec cette relation au désir extrêmement fort, mais maîtrisé par une série de codes et de rites très définis. Et tout ça évolue au cours de son histoire. Et c'est bien ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve justement dans l'interrogation des rôles. Je dis ça parce qu'on a beaucoup eu à répondre sur le tango est-il machiste ou pas, par exemple, c'est des questions. Et on a beaucoup aussi à répondre sur d'où viennent ces clichés. Finalement, ce sont des choses assez figées, avec des images, etc., qui viennent beaucoup d'ailleurs des tangos de scène, de ce qu'on en a fait.
On parle de tangasme.
Alors, le tangasme, c'est un néologisme qui rejoint l'orgasme et le tango. C'est un moment de plénitude particulier que chacun cherche dans le tango.
Mais il y a aussi une dimension tragique dans le tango. C'est un peu dans le même registre que la mélancolie. C'est-à-dire, on goûte le fait que l'on vit une passion, mais que cette passion n'est pas pleine, on désire quelqu'un, ou on a perdu quelqu'un, mais il y a toujours cette idée que le temps passe et que nous sommes tous de passage.
Oui, c'est une marche. Ça c'est pour rester très prosaïque, mais c'est très fort. C'est-à-dire c'est une marche. C'est-à-dire on apprend à. Il y a une espèce de remise à zéro dans le tango d'apprentissage, je pense classique. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment une sorte de. On réinvente une manière d'être ensemble. Hein, je crois que c'est très fort.
En sachant que ça ne durera pas.
Sachant que ça ne durera pas. C'est une histoire d'amour qui dure. 2-3 morceaux, le temps d'une tanda, comme on dit, une tanda, c'est-à-dire une série de 3 ou 4, généralement 4 tangos dans un bal.
Entre 10 et 15 minutes.
Entre 10 et 15 minutes, autrement dit, en général d'une même époque ou d'un même orchestre, et qui sont interrompues entre elles par ce qu'on appelle un rideau, une cortina, qui permet de rebattre les cartes à chaque fois. Et c'est dans cet entre-deux-là que tout se joue, évidemment.
Culture, tout un monde, Marie-Hélène Freissé.
Thank you. شجوني وغرامي لحالي والصيف حبيبي.
Aux couleurs du tango ce soir sur France Culture, on écoute Asmahan, J'ai décidé de cacher ma souffrance. C'est un morceau qui a été choisi par nos deux invités, Emmanuel Honorin et Jean-Louis Mingalon, qui sont experts estango et qui publient ce dictionnaire passionné du tango. Jean-Louis Mingalon, vous vouliez dire quelque chose en écoutant ce morceau qu'on a choisi parce qu'on va parler maintenant de l'extraordinaire diffusion du tango dans le monde.
C'est une bonne illustration, c'est le tango arabe. Il y en a d'autres, évidemment. Celui-là, c'est un enregistrement des fin des années 30, début des années 40, fait par une chanteuse d'origine syrienne qui travaillait en Égypte. C'est la Asmahan, ça veut dire la sublime. Elle est effectivement sublime, avec des yeux émeraudes, sublime, comme on peut dire. Grande rivale d'Oum Kalsoum, espionne plus ou moins pour les Occidentaux. Bref, en dehors de ces problèmes-là qui lui ont entraîné une mort assez rapide, puisqu'elle est morte à 27 ans.
Et de mort pas naturelle.
Un accident de voiture. Oui, on ne sait pas très bien. Le conducteur s'en laisse sortir. En fait, tout est bizarre. Donc, en tout cas, elle fait partie de ces chanteurs et comédiens, parce qu'elle était aussi comédienne, avec son frère Farid El Atrache, qui est aussi un très grand. Elle succède, d'une certaine manière, à la première époque, qui est celle de Mohamed Abdelwahab, qui était le premier à commencer à mettre des tangos dans ses compositions, c'est-à-dire le rythme du tango, avec des instruments orientaux et des paroles chantées en arabe quand c'est chanté. Bon. Et puis après, ça a continué avec Farid Atrache et Asmahan. Et là, donc, on vient d'entendre quelque chose qui est une parfaite illustration, justement, de cet incroyable voyage du tango à partir du début du XXe siècle. Au moment où il commence à naître et à s'installer là-bas avec la Guardia Vieira et se constituer vraiment en musique et danse, il s'exporte rapidement. Il y a des gens qui partent de l'Argentine de Montevideo et de Buenos Aires. Et ils viennent en France, notamment, parce que c'est un peu la référence culturelle, qu'il y a des bonnes techniques d'enregistrement. Ils sont trois ou quatre. Il y a Gobi, il y a sa femme, il y a Villoldo, choses comme ça. Et ils arrivent et ils commencent à enregistrer, ça se produit un petit peu. Et c'est la tangomania en France. Mais cette tangomania entraîne non seulement l'arrivée du tango dans toute la haute société parisienne et après au-delà, mais ça entraîne aussi que tous les pays d'Europe découvrant ça par la fois les musiciens qui voyagent ou des disques qui commencent à s'enregistrer, puisqu'à partir des années 10, ça commence à enregistrer. Donc, tout d'un coup, ça arrive partout, ça arrive en Europe de l'Est, et ça atteint le monde arabe, qui est aussi très très branché sur ce qui se passe en Occident. Et que ça commence là, mais ça se prolonge après, partout. Et alors, on retrouve au Japon, à partir des années 20-30, un peu plus tardivement dans l'autre partie d'Asie, il y en a partout.
Et bon. C'est la Mecque aujourd'hui, c'est la Finlande, d'après ce que j'ai compris.
Ah. Oui, mais enfin, c'est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire que la Finlande, en fait, ils disent que le tango et la danse nationale, hein, c'est ça, mais aussi parce qu'ils l'ont digéré à tel point qu'ils l'ont réinventé d'une certaine manière. Et donc évidemment, il y a énormément de connexions et d'allers-retours, d'ida et vuelta, comme on dit, entre la Finlande et l'Argentine. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était une entité finnoise ou finlandaise, je ne sais jamais comment on dit, à part entière.
Ouais.
Et c'est pas entièrement revendiqué de la part des Porteños, par exemple.
Alors, dans votre dictionnaire du tango, donc on suit certaines de ces histoires et on réalise, par exemple, ce qui nous a peut-être échappé, qu'il y a eu un revival du tango en France dans les années 60, au même moment où émergeait et était très très populaire la musique rock, yéyé, etc. Donc il y a eu un revival à ce moment-là en France. Ça m'a un petit peu surprise.
Ouais. Plus tard.
C'est plus tard.
C'est plus tard.
C'est 70, alors les années 70.
C'est beaucoup plus tard parce que le tango était entièrement en berne de tout début 60, enfin même carrément 55-60, jusqu'en après le retour qu'on en a eu nous et qui était complètement différent, justement lié à des gens comme Piazzolla, etc. Mais là, on est carrément
dans années 80,
70-75, par exemple.
Ouais.
Parce que là, les grands succès de Piazzolla, c'était à partir de 75.
Donc là, relayé par Galliano en France.
Voilà, Galliano, et puis après, toutes ces connexions, notamment entre le tango et le jazz, qui sont très fortes.
On peut préciser en disant qu'effectivement, avec Piazzolla, on est plutôt dans l'écoute. Et la, comment dire, le revival de la danse, c'est un peu plus tard.
C'est encore plus tard.
On danse pas forcément sur Piazzolla, oui. C'est à partir des années 80, lorsque la France découvre enfin, grâce au spectacle Tango Argentino, ce que vraiment, c'est un peu comme l'histoire de Bonavista Social Club, c'est-à-dire que pas Mick Cubel. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a sur scène des vieux chanteurs sublimes, qu'il y a des grands danseurs, qu'il y a des musiciens incroyables, comme le Sextet au Major. Bref, on découvre tout ça. Et du même coup, ça entraîne Pour des danseurs français, des chorégraphes, tout ça, de se mettre au tango, et inversement, de prendre, de donner des cours, et donc des Français prendre des cours. Donc ça s'en finit.
Et le tango se marie à l'électro aussi. Voilà, ça s'appelle Una Musica Brutale, et effectivement, c'est tout à fait appliqué à cette musique. Gotan Project, ça date de 2001, c'est l'électro-tango. Donc aujourd'hui, il y a véritablement une vie du tango, des lieux. D'ailleurs, Emmanuel Honorin, vous occupez d'un de ces lieux à Paris où du tango, on danse le tango, on écoute le tango à la Belle Villoise.
Oui, sachant en effet qu'il y a c'est un lieu de danse, mais c'est avant tout un endroit de culture autour du tango où on fédère aussi beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens, je fais venir des orchestres de Buenos Aires, ce qui est privilégié parce que c'est pas facile, mais on a tout un circuit d'orchestres qui tourne un peu partout en Europe, donc ça c'est intéressant. Et puis je produis aussi des artistes autour du tango, pas nécessairement sur des formes classiques d'ailleurs. J'aime beaucoup le tango d'avant le bandoneon, justement, le tango à la guitare. Je travaille avec un musicien que j'aime énormément qui s'appelle Rudy Flores. Je travaillais avant avec ACRS, qu'on écoutait tout à l'heure avec Tango Negro, et j'aime beaucoup cette imbrication entre le tango et les musiques du monde et le jazz, puisque évidemment l'entrée via Piazzolla, c'est vraiment pas orthodoxe, on va dire. Et voilà, et on danse aussi sur des formes très différentes.
Donc le tango continue de se métisser, c'est une forme musicale qui permet particulièrement bien ces mélanges.
Non seulement ça, mais en plus, ça accroît encore la dimension planétaire, parce que là, on parlait tout à l'heure de la géographie, mais on peut parler aussi de l'âge, des générations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le tango électro arrive avec le Gotan Project, après, il y a d'autres groupes qui sont constitués derrière, mais tout d'un coup, les portes s'ouvrent pour toute une génération très jeune, qui découvre d'abord, parce que c'est une musique électro, et qui tout d'un coup se raccroche un peu au tango. Et chez les jeunes, aujourd'hui, on parle du tango, ils disent Gotan Project. C'est en gros la seule manière pour eux d'écouter du tango.
Et justement, à la Bellevilloise, vous mariez les générations ?
Ah oui, oui, tout à fait. Mais alors là, c'est lié à l'essence même du tango. Oui. Donc, ce n'est pas très original, dans le sens où on est, je pense, dans l'unique forme de danse populaire aujourd'hui, vraiment intergénérationnelle. C'est-à-dire, on peut commencer le tango à 60 ans, et c'est génial, hein, parce qu'on gagne en maturité. C'est, voilà, l'histoire.
J'en suis un exemple.
Vous êtes un adepte récent.
Et puis, après, on joue aussi sur les territoires, sur les formes musicales. Alors bon, c'est toute la magie de l'évolution de la soirée aussi, hein. C'est-à-dire, on est quand même... ce qui s'écoute le plus, c'est quand même les années 30, enfin 35-40. Hein. Là, c'est vraiment... Et puis après, on joue sur ce voyage-là.
Est-ce qu'il y a une littérature tango ? Parce qu'on apprend aussi dans ce dictionnaire que Borges a écrit des chansons pour du tango,
avec
son copain Bioy Casares, quand ils allaient au café, là, au cœur de Buenos Aires, à la Recoleta, ils griffonnaient sur un coin de table des chansons.
Oui, mais il avait un rapport ambigu au tango, hein, parce qu'il disait qu'il aimait le tango des tout premiers âges, le tango d'avant l'arrivée de la plainte du bandoneon. La plainte du cocu. Ouais. Et il a écrit notamment des morceaux magnifiques sur la musique de Piazzolla.
Il y a beaucoup de tango dans le tango, à lire donc absolument, hein, c'est l'ouvrage de base, Dictionnaire passionné du tango par Jean-Louis Magallon, Emmanuel Honorin qui était avec nous et Gwenaël Dénigaud, philosophe, c'est publié aux éditions du Seuil. Et c'est avec Astor Piazzolla, le grand Astor Piazzolla, Oblivion, que se termine ce Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Jean-Richard Dufour, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. Sur France Culture, donc, où vous attend Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.